Il y a d'un côté l'économie et de l'autre l'écologie. Ces deux mots finissent certes pareil, mais ils ne recouvrent pas vraiment les mêmes réalités, les mêmes ambitions. Difficile de faire rimer parfois consommation, libre-échange, compétitivité, avec préservation de la biodiversité, diminution des gaz à effet de serre ou suppression des pesticides. Alors comment continuer de produire en protégeant notre planète ? Est-il possible d'allier économie et écologie ? Comment et à quel niveau agir ? On en parle dans cet épisode de La Fabrique du Savoir saison 3, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec l'Institut Balanites. Bonjour, je m'appelle Josefa Lopez, je suis journaliste au Monde. Pour cet épisode, je reçois trois invités réunis à l'occasion de l'Université d'été de l'Observatoire Homme-Milieu International Tesekere, organisé par l'Institut Balanites. À mes côtés, Sylvie Ferrari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en économie écologique et membre du laboratoire Bordeaux Sciences Économiques, qui est une unité mixte de recherche rattachée au CNRS et à l'Université de Bordeaux. Vous êtes aussi membre fondateur de l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance et vous vous intéressez particulièrement à l'économie écologique. Vous nous expliquerez tout ça. Luc Doyen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS également et vous vous intéressez à la bioéconomie, à la gestion viable de la biodiversité et aux mathématiques de la durabilité et de la résilience. Vous nous expliquerez également tous ces termes techniques. Et Abdouka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue de l'alimentation, maître de conférence à l'université de Ziguinchor au Sénégal et vous étudiez les systèmes alimentaires durables. Bienvenue à tous les trois. On oppose souvent économie et écologie. D'ailleurs, je l'ai un peu fait dans mon introduction. Qu'en pensez-vous, Sylvie Ferrari ?
L'économie et l'écologie sont effectivement parfois en opposition. Enfin, on les traite ainsi, alors que depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a un nouveau champ en économie qui s'est développé et une nouvelle discipline qui émerge, qu'on appelle l'économie écologique, qui vise justement précisément à rapprocher les deux champs disciplinaires et à insérer dans l'économie les régulations écologiques. Donc voilà, ça c'est un mouvement de fond, on va dire, qui a été amorcé à la fin des années 1980 et qui se poursuit et qui se structure de plus en plus, donc à l'échelle académique, au niveau universitaire, au niveau français, européen, dans le monde. Donc, on a effectivement toute une génération nouvelle, on va dire, d'économistes qui sont des économistes écologiques.
On a parfois l'impression qu'on prend en compte aujourd'hui l'écologie, mais vous le venez de le dire, c'est un domaine qui intéresse, cette alliance entre économie et écologie. Si on peut peut-être donner quelques éléments historiques, Luc Doyen, depuis quand qui a théorisé ce rapprochement ?
On les oppose trop. Il y a maintenant une économie de l'environnement, une bioéconomie, une économie écologique qui rapproche, essaye de synthétiser tout ça. Si je peux aller plus loin sur ce qui rapproche l'économie et l'écologie, je mettrais d'abord en avant, vous parlez de faire rimer écologie et économie, la racine grecque, éco, oikos en grec, veut dire la maison. Donc on se retrouve... Ces deux disciplines, elles peuvent se retrouver là-dessus déjà. Elles se retrouvent aussi sur la prise en compte des dynamiques, la prise en compte de la spatialité, la prise en compte des comportements du côté de l'écologie sur les espèces, sur les groupes, sur les écosystèmes, et du côté de l'économie, bien sûr, les interactions entre les agents, entre les acteurs, compétition, coopération, notamment. Donc, beaucoup de potentialités de coopération entre disciplines, hein, de coordination entre disciplines et de synergie, donc sortir de l'opposition.
Il y a un homme peut-être qu'on peut citer qui a formulé ce terme de bioéconomie, c'est Nicolas Georgescu-Roghen, qui est un économiste et un mathématicien qui est né en Roumanie, Sylvie Ferrari.
Oui, Roumanie, effectivement, son pays d'origine, qu'il a quitté quelques décennies plus tard pour aller faire sa thèse de statistique à Paris, puis migration aux États-Unis. Donc, effectivement, un économiste qui a eu une approche assez visionnaire, finalement, de cette discipline qu'est l'économie, en ouvrant l'économie, en fait, aux régulations écologiques et à l'échelle de la biosphère. Et il a considéré, effectivement, que cette bioéconomie, donc cette nouvelle approche de l'économie qu'il propose, avait des fondements et des racines, si vous voulez, à la fois dans la physique et dans la biologie. Alors bon, je vais pas développer cette approche-là, mais il a effectivement apporté une vision un peu nouvelle dans le sens où il a interrogé le fonctionnement du système économique en l'éclairant avec la loi d'entropie. Et il a considéré aussi sur un temps long le développement des sociétés humaines qui sont dépendantes effectivement de l'énergie et de la matière, mais qui, pour accéder à cette énergie et matière, ont besoin de développer des outils, des techniques, etc. Et donc, pour lui, l'évolution économique, finalement, vient poursuivre l'évolution biologique sur un temps long de l'espèce humaine. Donc, on a vraiment une approche du développement des sociétés qui s'inscrit sur un pas de temps long, qui comporte donc des transformations via les processus naturels, dans une approche globale avec la biosphère et avec cette approche donc des transformations opérées par les activités économiques qui sont portées par cette loi d'entropie qui explique finalement que pour créer les biens dont on a besoin, qu'on va utiliser au fil du temps, tout au long du développement des sociétés humaines, eh bien, on va faire appel à de l'énergie qu'on prélève dans la nature, qu'on va effectivement mobiliser pour produire des biens. Mais ce changement qui va apparaître entre l'état de l'énergie initiale et l'état final, c'est quoi? Eh bien, au départ, c'est de l'énergie qui a un potentiel d'énergie utile, et à la sortie, on a du déchet, de la pollution. Et ça, c'est irréversible, c'est une loi d'entropie, une loi non économique, finalement, qui s'applique au fonctionnement même du système économique.
Et Abdouka, du coup, sur le terrain, ça vous parle ce terme de bioéconomie en matière d'alimentation?
Par exemple, si on va dans le nord du Sénégal, dans cette zone sylvopastorale, il y a beaucoup d'éleveurs, pasteurs, peuls. Ils ont une conception aussi de l'économie laitière. Par exemple, dans leur représentation, comme la vache a 4 pies, chaque pie représente une part, par exemple, une partie du lait est destinée à la consommation et à la commercialisation. C'est juste une partie, un quart du lait à la base. L'autre quart est destiné aux invités. L'autre part est destinée aux veaux. Il y a une dernière part qui est destinée aussi aux gens qu'on appelle les griots. Donc, dans leur économie et dans leur conception, c'était juste une petite partie du produit laitier qui était destiné au commerce. Donc, il y avait cette vision-là de la gestion des produits laitiers. Mais avec le temps, il y a eu beaucoup de changements. Il y a l'arrivée aussi des fermes ou des firmes agroalimentaires qui ont voulu exploiter ce lait.
Pour dire plus.
Oui, pour nourrir les villes, parce qu'il y a une démographie galopante dans les villes sénégalaises ou ouest-africaines. Il faut les nourrir, il y a une demande abondante en lait. Mais les populations s'adaptent. Comment ils font? Ils vont prendre maintenant une partie du troupeau, des vaches laitières, qui ne vont pas transhumer, qui vont rester autour de ces laiteries. Et le reste du troupeau continue à migrer, à faire de la transhumance. Ils continuent ce mode de vie pastoral. Donc, ils sont en train de s'adapter aussi aux réalités du commerce international ou mondial.
Sylvie Ferré et Luc Doyen, donc vous travaillez tous les deux sur la bioéconomie, mais vous n'avez pas totalement la même approche. En tout cas, en préparant ce podcast, vous me l'avez dit, avoué. Pourtant, vous vous connaissez très bien et vous travaillez souvent ensemble. Ce qui vous distingue, c'est l'échelle, la dimension temporelle et spatiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence, Sylvie Ferrari?
Disons que oui, je peux en dire quelques mots. De manière synthétique, il me semble que l'approche bioéconomique que l'on retrouve à travers la gestion des ressources renouvelables qui vise à combiner des contraintes économiques et des contraintes écologiques, l'approche qu'on développe et que tu développes très largement dans tes travaux, Luc, c'est celle-ci. Donc, on s'intéresse effectivement à la manière dont on peut rendre compatible économie et écologie en termes d'objectifs. Ce sont des modèles bioéconomiques qui sont proposés. C'est dans un domaine particulier, celui de la gestion de la biodiversité, de la pêche ou autre. Moi, effectivement, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'avoir cette vision qui réconcilie finalement l'économie et l'écologie, bon, à travers le prisme des travaux de Georges Escourégan, mais plus largement, c'est cette approche donc, laquelle je m'inscris, de l'économie écologique qui permet effectivement d'embarquer aujourd'hui des problématiques à l'heure de l'anthropocène qui vont être autour des limites planétaires, comment on repense la manière de se développer, mais bon, le développement ici, je l'entends comme la manière de satisfaire ses besoins essentiels, quels qu'ils soient, alimentaires bien sûr, mais énergétiques, de mobilité, etc. Sachant qu'on est dans un contexte de changements globaux, que ce soit le climat, la biodiversité, l'accès à l'eau, etc. Donc voilà, c'est effectivement une approche qui se situe à une échelle plus globale, on va dire, quelque part. Ce qui ne veut pas dire pour autant, tu me diras si je me trompe, Luc, mais que dans tes travaux, évidemment, la question globale, elle n'est jamais très loin, quoi. La question du climat, la manière dont la biodiversité évolue au niveau de la planète. Bon, clairement, c'est quelque chose qui fait écho aussi à ces travaux sur l'approche bioéconomique entendu ici au niveau des ressources renouvelables, Luc Doyen.
Donc, bioéconomie, effectivement, je l'entends plus comme gestion de la biodiversité et des services écosystémiques et des écosystèmes, donc l'interaction entre le vivant et l'économie. Et ça, ça remonte historiquement à une école de pensée économique, des travaux et des résultats économiques qui remontent aux années 50 du siècle précédent, avec les travaux vraiment importants de Graham Schaefer sur la gestion des ressources renouvelables de manière durable, avec des concepts qui sont encore vivaces aujourd'hui, qui sont le maximum sustainable yield en anglais, rendement maximum durable, et MEY, maximum economic yield, donc qui ont un fondement théorique et mathématique très clair, et qui ont permis de développer des politiques publiques pour la gestion en particulier des pêches, mais on peut imaginer aussi des choses autour de la gestion de la chasse, la cueillette des champignons, pourquoi pas. Et donc, le MSY, le Maximum Sustainable Yield, est appliqué pour la politique commune des pêches européennes. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'on part d'une théorie qui est solide et qu'on arrive à le décliner
concrètement sur le terrain
avec des politiques publiques et qui donne des résultats. J'insiste toujours là-dessus. On est souvent dans le catastrophisme sur les politiques publiques environnementales et les dynamiques environnementales, en particulier sur la biodiversité. Et il s'avère qu'il y a des résultats de l'application de ces politiques, typiquement MSY pour l'Europe. On a de moins en moins de stocks surexploités à l'échelle européenne. Donc, c'est des résultats qui sont mis en évidence depuis une dizaine d'années, où cette politique commune européenne des pêches est basée sur ces points de référence et ces quotas MSY. On a aussi des résultats intéressants et assez saisissants même du côté du MEY pour l'Australie sur la pêcherie crevettière du nord de l'Australie avec des enjeux économiques très très importants. Donc des succès avec ces stratégies bioéconomiques qui sont basées sur une théorie extrêmement forte et claire et relativement simple.
Voilà. Abdouka, sur le terrain, justement, sur cette gestion durable, vous travaillez sur l'alimentation, on vient de parler de la pêche, de l'alimentation.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire une analyse aussi de politique publique, parce que ce qu'on voit, c'est qu'à la base, les populations sont en train de subir des politiques qui ne tiennent pas compte aussi de ce que vous appelez la bioéconomie. Par exemple, si on prend la gestion des plastiques, on a dit aux gens, il faut produire davantage de lait, il faut le pasteuriser, il faut le commercialiser. Et les populations pasteurs se sont organisées en ONG pour produire du lait, pour le pasteuriser. Mais pour le commercialiser, il faut utiliser du plastique. Et les industries sont dans les villes qui produisent beaucoup de plastique qu'ils envoient dans ces milieux reculés, dans les campagnes, pour conditionner le lait. Et le lait est consommé par les populations et on jette le plastique et le bétail le consomme. Donc, il y a ce cercle vicieux-là qu'on est en train de vivre. Et pourtant, il y a une niche qui est là et les gens ne réfléchissent pas sur des alternatives. Par exemple, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, est un pays producteur de coton. Et aussi, on peut utiliser d'autres alternatives, le papier. Mais l'État même avait des politiques pour interdire l'utilisation des sachets politiques plastiques, mais il n'y a pas d'alternative. Finalement, il a pu céder à la pression. Donc, je pense qu'il y a une niche qui est là. Si on parvient à trouver vraiment des alternatives pour faire face aussi à l'usage des sachets plastiques.
Quels sont aujourd'hui les défis qui se posent à nous pour justement essayer de davantage, en tout cas, faire rimer économie et écologie ? Vous y voyez quatre défis, Luc Doyen.
Les quatre défis que j'ai en tête, que je mets régulièrement en avant, c'est le premier défi, c'est opérationnaliser, pour la biodiversité au moins, l'approche écosystémique. Le deuxième défi, c'est opérationnaliser la durabilité, on l'a déjà évoqué. La résilience me paraît être un défi aussi majeur. Quatrième défi, la gouvernance. Alors peut-être sur les trois premiers, l'approche écosystémique, l'idée c'est de passer d'une vision monospécifique type MSY à une vision multi-espèce, interaction trophique, interaction avec l'habitat, interaction avec le climat. Donc toutes les complexités, dit plus clairement, prendre en compte toutes les complexités écologiques, la spatialité aussi. Donc ça c'est vraiment une vision importante, nouvelle et un saut qualitatif et quantitatif qu'il faut franchir, et c'est pas facile. Deuxième point, la durabilité. Donc là, c'est l'idée de passer, de sortir d'une vision à l'équilibre du MSY pour aller à une vision plus dynamique de la durabilité, avec deux objectifs, deux ingrédients forts qui sont l'équité intergénérationnelle. Je réconcilie le court terme et le long terme, les générations présentes et les générations futures, et intermédiaires aussi. Et derrière ça, les trois piliers du développement durable, c'est que je veux réconcilier l'écologie, l'économie et le social. Et ça, ça implique d'avoir une vision multicritère, pas un seul critère comme le MSY ou le MIY. Donc, et par exemple, la biodiversité, on peut pas tout monétariser. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est un vrai défi à la fois méthodologique et conceptuel. Je parlais de la résilience comme troisième défi. Là, c'est la prise en compte des incertitudes. On voit bien, et des chocs. On voit bien ces dernières années que c'est très prégnant, les incertitudes, les chocs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient géopolitiques, qu'ils soient épidémiologiques, voire écologiques. Donc là, on a vraiment un défi majeur, intégrer avoir une perspective de résilience qui est une sorte de durabilité forte. Et puis sur la gouvernance, peut-être on y reviendra, mais c'est quels instruments pour gérer la tragédie des communs et la non-coopération des acteurs sur des ressources de type en accès libre, mais je pense qu'on pourra rebondir là-dessus plus tard.
Abdouka, sur ces mots économie, écologie, sociale à réconcilier, j'imagine que ça vous parle. Est-ce que vous pouvez constater en tout cas sur le terrain en termes d'alimentation durable?
Oui, en termes d'alimentation durable, je pense que en tant qu'anthropologue, depuis les années 1970, il y a des anthropologues qui ont travaillé sur certaines valeurs. Par exemple, dans le Sahel, il y a ce qu'on appelle le yaage. Et dans mes travaux aussi, j'ai trouvé un autre terme qui ressemble un peu à cette valeur que les Peuls du Ferlo appellent le ndimagu. Le ndimagu, c'est vraiment ce qu'on appelle actuellement la sobriété. Et c'est une valeur aussi qui était présente en Afrique de l'Ouest. Les gens n'étaient pas dans une société de consommation intense. On ne consommait pas tous azimuts.
On consommait ce qu'il y avait devant nous, en fait.
Ce qui était devant nous, mais avec beaucoup de retenue. Celui qui voulait se considérer comme étant quelqu'un de noble, c'est celui qui mangeait très peu, c'est celui qui utilisait très peu d'habits, ainsi de suite. La personne la plus frugale, la plus sobre, était considérée comme la personne la plus noble. C'était vraiment une valeur cardinale dans cette société. Et ceux qui mangeaient beaucoup, c'était vraiment les classes les plus basses, ceux qui consommaient le plus, et qu'on les appelait les griots, les esclaves, ainsi de suite. Maintenant, on est revenu dans le discours à la décroissance, à la sobriété, ainsi de suite. Je pense qu'on peut puiser sur ces valeurs-là qui sont là jusqu'à présent. Et il y a des gens qui croient en cela pour les mettre en valeur, pour montrer que pour vivre en harmonie avec notre société, parce que nos ressources sont limitées, et on ne peut pas continuer à consommer, à pousser les gens. Il y a des limites. À un moment donné, il y aura un point de rupture.
On vous a éduqué comme ça, donc il va falloir revenir sur de la sobriété, de la résilience, comme vous le disiez. Sylvie Ferrari, une petite perche a été tendue, puisque vous êtes fondateur de l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance. Ce mot décroissance vient d'être cité par Abdouka. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en avant par rapport à cette bioéconomie?
Alors oui, effectivement, la question de la décroissance, on en parle beaucoup plus qu'il y a quelques années, même si c'est un concept maintenant sur lequel on travaille, on avance aussi au niveau théorique et en termes de méthode, on va dire, à travers différents travaux, enfin je veux dire académiques, hein, de publications, thèses, etc., depuis une vingtaine d'années. Donc là, l'idée, c'est quoi? Effectivement, c'est d'aller vers un nouveau modèle et d'envisager cette transition dont on parle dans les médias beaucoup, hein, aujourd'hui, transition écologique, etc. Donc effectivement, cette transition, c'est quoi? Ça peut être un modèle, effectivement, qui va changer. C'est s'inspirer donc d'un certain nombre de travaux, je pensais à Georges Couréguen encore, pardon, mais à d'autres aussi aujourd'hui qui veulent effectivement aller vers un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, on ne peut pas y aller sans transition. Et la décroissance peut être une voie pour aller vers ce nouveau modèle économique qui serait donc effectivement très différent. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais simplement pour dire quoi? Que cette décroissance, on peut l'indiquer de manière assez simple, c'est effectivement envisager, tout en respectant les limites planétaires, dans un contexte où on aurait plus de justice, de réduire quoi? Eh bien, de réduire la taille physique de l'économie, donc de produire moins, de consommer moins, mais de manière planifiée, organisée, décidée. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va être de la récession, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement donc imaginer, encore une fois, un chemin, une trajectoire de décroissance pour aller vers un nouveau modèle qui serait beaucoup plus résilient, puisqu'on embarque les limites planétaires avec nous, hein, on va faire avec elles, ces limites biophysiques. On embarque aussi des changements de comportement, donc il faut aussi un certain temps pour faire en sorte qu'effectivement, par l'éducation, par d'autres moyens, on puisse arriver à convaincre finalement qu'il faut consommer et produire autrement. Et au final, c'est aller effectivement vers la mise en avant de valeurs différentes. Hein. Tu l'as évoqué, effectivement, des valeurs plus nobles, on va dire, des valeurs nouvelles, en tout cas, qui ne sont pas aujourd'hui au cœur de nos sociétés, en tout cas, de nos sociétés contemporaines, et en France, voire en Europe et ailleurs. Donc, on a besoin, effectivement, de changer le curseur pour aller vers un modèle qui serait beaucoup plus en harmonie avec la nature, en fait. Mais voilà, il faut être dans un contexte. Aussi. Oui, je pense qu'il y a une dimension politique, effectivement, associée également à ce modèle-là.
Luc Doyen.
Je suis d'accord sur beaucoup de points qui ont été évoqués. Mais mon sentiment, c'est que la durabilité, c'est ni l'état stationnaire, ni la décroissance. Ou alors, il faut savoir de quelle décroissance on parle.
Décroissance physique, hein, j'ai bien
Ah oui, donc, ouais. Parce qu'il faut faire attention. Je pense qu'on a besoin aussi de croissance parce qu'on a des défis de sécurité alimentaire face à, en particulier pour les pays en développement. L'innovation, la recherche scientifique, elle a besoin aussi d'être alimentée par une certaine croissance économique, croissance de connaissances et de connaissances.
De l'immatériel, là tu te places plus, tu vois, sur le.
Donc là où je suis d'accord, c'est on a besoin probablement d'une décroissance, d'une sobriété sur l'utilisation des ressources naturelles. Sur le reste, je suis plus réservé. Je pense que la durabilité, elle n'est pas incompatible avec la croissance de certaines choses.
Pour mieux agir, est-ce qu'il faudrait davantage désiloter les politiques de développement économique d'un côté et les actions de transition écologique, énergétique, sociétale, selon vous, Abdouka, et comment faire?
Il faut aussi tenir compte de l'existant. Parfois, il y a beaucoup de politiques publiques qu'on applique sur le terrain sans tenir compte des réalités. Et aussi, je dis que ce qui se passe en Europe, cela ne peut pas se reproduire en Afrique. Il faut certaines politiques publiques les tropicaliser. Quand on vient avec une politique d'intensification, par exemple, d'intensification laitière ou de sorgho, de céréales, ainsi de suite, il faut tenir compte de ce qui existe, tenir compte des pratiques locales, ainsi de suite. Mais si on impose les gens de produire davantage en utilisant plus de pesticides, en utilisant plus d'animaux de bétail avec beaucoup de plastique pour les emballages, ainsi de suite, je pense que ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui tiennent compte des réalités et ne pas mépriser aussi l'existant. Pour moi, c'est très important, surtout sur la durabilité des systèmes alimentaires. Pour qu'un système soit durable, il faut produire de la croissance, produire davantage pour nourrir les populations. Mais cette production doit tenir compte aussi de la santé des populations et aussi ne pas dégrader l'environnement.
Vous parliez des politiques, les politiques publiques, mais il y a aussi l'adhésion des populations. Quand on fait peut-être miroiter en face que produire plus de lait, certes, ça va utiliser plus de plastique, mais ça va permettre de gagner plus, de faire peut-être mieux vivre une famille ou autre. Comment on réussit aussi, et est-ce que vous essayez de le faire, de convaincre les familles de qu'il y a un autre modèle, on vient d'en parler, qui est possible avec plus de sobriété, de résilience, de respect de l'environnement? Comment sur le terrain on fait entendre cette petite musique?
Les populations vivaient avec beaucoup de résilience, avec beaucoup aussi de frugalité. Mais c'est avec les changements. Le changement est venu par, je ne dirais pas par la colonisation, mais surtout avec la mondialisation, avec les échanges, ainsi de suite. Et aussi, il y a des modèles qui sont là. Il y a, par exemple, le modèle occidental. C'est un modèle, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on dit Toubapé. Toubapé, ça vient de l'Occident. Donc, c'est chacun veut être comme un Toubap, parce que c'est là où, pour certains, là vient la civilisation.
Mais comment inverser ce message?
Exactement, c'est ça que je veux dire. Et comme c'est un modèle qui est là, et qui est valorisé avec beaucoup de films, avec la télévision, avec l'Internet, ainsi de suite. Maintenant, il faut changer les populations. On est en train d'alphabétiser les populations. L'école est là et il faut sensibiliser. Changer les programmes de télé en sensibilisant à l'école qu'il y ait des politiques de scolarisation qui tiennent compte d'une réalité écologique. Comment préserver l'environnement, ainsi de suite, dès le bas âge, parce que le changement ne peut pas être brusque. Depuis de 3 siècles de colonisation, ainsi de suite, avec l'Internet, avec tout ce qui est là, le changement ne peut pas être brusque, ça doit être un changement générationnel. Préparer les générations à venir aussi vers un nouveau modèle, et je pense que c'est possible, mais avec beaucoup de sensibilisation, surtout pour les jeunes générations, parce que pour les plus anciens, je pense que c'est déjà perdu.
Malheureusement, la notion de temps vient d'être évoquée, donc il faut du temps pour changer. Mais la notion de temps, elle est aussi importante parce qu'avec plus de temps, on pourrait, par exemple, voyager différemment, produire différemment, se nourrir aussi différemment. Comment faire, en fait, finalement, pour ralentir? Alors, on veut accélérer notre changement de mentalité. Par contre, comment faire pour ralentir, pour faire ce changement de logiciel dont on vient de parler, Sylvie Ferrari?
Mais ça, c'est à l'échelle des individus. Je pense que ça doit se produire d'abord. C'est-à-dire qu'on veut dégager du temps pour faire autre chose. Donc, ralentir, c'est renoncer effectivement à peut-être à certaines consommations, se donner du temps pour aller pratiquer certaines activités, qu'elles soient artistiques ou autres. Mais en fait, on a cette capacité aussi à renoncer finalement de manière libre, à s'auto-limiter peut-être d'une certaine manière, à renoncer à certains biens de consommation qui sont pas forcément essentiels. Pour se repositionner quelque part sur ce qui est important pour nous en termes de bien-être. Parce que ce n'est pas parce qu'on consomme beaucoup plus qu'on est plus heureux. On ne va pas ressortir le paradoxe d'Easterling, mais enfin, dans les années 50, cet économiste américain a bien mis en évidence le fait qu'à un moment donné, passer un certain niveau de richesse, alors ça concerne plus en effet les pays dits riches aujourd'hui ou industrialisés, mais on déconnecte en fait l'évolution entre le bien-être ressenti et la richesse donc par habitant du pays considéré. Donc ça ne suit plus, quoi. À un moment donné, je suis prête à renoncer à un certain niveau de revenu, pourvu que j'ai du temps pour ma famille, pourvu que j'ai du temps pour des activités de bénévolat, d'accompagnement, de soutien scolaire, etc., qui sortent complètement, si vous voulez, à ce moment-là, de la sphère marchande, quelque part, à la limite. Certes, on veut accumuler, mais à un moment donné, on accumule pourquoi ? On fait de la croissance pourquoi ? Alors certes, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Luc, à savoir qu'on a besoin de croissance sur certains produits alimentaires, sur certains biens, c'est indéniable. Mais il y a effectivement le besoin aussi de croissance sur l'immatériel. Par exemple, j'évoquais le fait de faire des activités artistiques, de faire plus de théâtre, de chant, si j'en ai envie. Bon, tout ça, c'est important. Mais voilà, de se recentrer sur l'essentiel et de sortir de la sphère de production dominante, finalement, qui a peut-être envahi un peu trop nos espaces de vie, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas plus heureux si on travaille beaucoup plus.
Oui, donc vous parliez de penser en silo, hein, si j'ai bien compris.
Oui.
Comment sortir de ça? Donc, bien sûr, avec des approches qu'on a mis en avant en bioéconomie et économie écologique, système alimentaire durable. Donc, ça veut dire une vision interdisciplinaire, ou pluridisciplinaire, ou transdisciplinaire, peut-être je peux même oser ce mot-là, avec, par exemple, une des déclinaisons qui pourrait être en termes de comptabilité, des bilans qui soient à la fois financiers, qui soient des bilans carbone dans les activités, et des bilans biodiversité. C'est très théorique à ce stade, mais on peut avoir cette idée-là. Il me semble que pour changer de paradigme, on a besoin énormément de politiques publiques, parce que on a besoin de réguler. On parle beaucoup de la tragédie des communs sur les questions environnementales. Les acteurs ne sont pas forcément individuellement vertueux dans l'utilisation des ressources. Certains le sont, mais d'autres ne le sont pas. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on régule l'accès aux biens communs de manière globale. Et derrière ça, on a besoin de coopération, de régulation, de politique publique et on a besoin d'instruments de politique
qui soient adaptés aussi à ce qui se passe sur le terrain, c'est ce
qu'on disait tout à l'heure, terrain. Et l'économiste a beaucoup d'outils à proposer par rapport à ça. Généralement, on distingue, il y a trois grandes classes d'instruments. Les instruments en quantité, type les quotas de pêche qu'on a mentionné tout à l'heure, les quotas plus globalement, d'émissions de carbone aussi, bien sûr. Les aires protégées, c'est typiquement des instruments en quantité. On régule l'accès en termes de quantité spatiale. Deuxième grande classe, les instruments financiers, monétaires. Pas les négliger. Subventions, taxes, bien sûr, posent des questions d'acceptabilité, mais c'est des outils qui peuvent être très, très importants. On peut penser à la compensation aussi, qui serait un outil relativement monétaire. Et puis, les troisièmes classes qui renvoient plus aux consommateurs, les écolabels. Et donc, il faut s'en servir. Et ça passe par une politique publique des politiques publiques très, très marquées, très fortes, bien évidemment. Et ça coûte cher. Et il y a des transitions qui sont nécessaires parce que tout ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Et du jour au lendemain, les comportements prennent du temps aussi à changer, hein, chez les acteurs publics, chez les acteurs privés, chez les acteurs économiques, etc.
Peut-être pour conclure, on a l'impression quand même que les individus sont en train de changer, de prendre conscience à ça, de se retourner peut-être, on le disait Abdouka tout à l'heure, vers des pratiques peut-être des fois un peu plus ancestrales, ou en tout cas de s'en souvenir. Mais comment faire bouger les lignes au niveau du politique, même au niveau des entreprises, puisque finalement, la décroissance, revenir en arrière, ce n'est pas vraiment propice aux gains, notamment. Et donc, comment réussir à mettre tout le monde d'accord? Comment storyteller, on le disait tout à l'heure, ce changement?
Il y a une notion qu'on interroge très peu, c'est la notion du bonheur. Le plus important, c'est quoi la finalité de la production? Il faut que les gens soient heureux. Quand on consomme, quand on produit en permanence et on n'est pas heureux, pour moi, ce n'est pas intéressant. Donc, repenser cette notion de bonheur qui est importante, et la mettre aussi en lien avec la notion de suffisance. On ne peut pas tout avoir. Et aussi, les ressources, elles sont limitées. Donc, il faut éduquer les gens à ces deux notions. Être heureux avec le peu qu'on a, mais tout en améliorant ses conditions de vie.
Je crois que c'est sur ces mots très optimistes qu'on va conclure. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été parmi nous pour ce podcast. Je vous propose de retrouver tous les autres épisodes aussi de cette saison 3 de La Fabrique du Savoir sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. À très bientôt.